Alors moi, ou plutôt le Seigneur, nous en avons assez. Je vais mettre fin à votre bavardage. Il ne convient ni à l'intérêt de ces nations, ni au bien public, que vous restiez ici plus longtemps. Je vous déclare donc que je dissous ce Parlement. Déclaration d'Olivier Cromwell devant le Parlement, le 20 avril 1653.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Lors de notre dernière chronique, nous avions laissé cette histoire d'Angleterre au moment de la mort d'Élisabeth Ière en 1603. Son plus proche héritier est alors le fils de Marie Stuart, Jacques Stuart, déjà roi d'Écosse. Il devient donc roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Même s'il y a le même souverain, l'Angleterre et l'Écosse continuèrent encore pour un siècle à former deux États distincts. La grande question politique qui n'avait pas été résolue à la fin du règne d'Élisabeth, c'était le rapport entre le pouvoir royal et le pouvoir du Parlement. Or, cette question ne va pas tarder à revenir sur le devant de la scène politique anglaise. En effet, Jacques Ier avait écrit un livre où il affirmait que le pouvoir du roi vient de Dieu et que désobéir au souverain est aussi sacrilège que désobéir à Dieu. Au contraire, les députés du Parlement estimaient qu'ils avaient le droit de décider sur toutes les questions, que la prérogative royale devait être étroitement limitée et que les ministres pouvaient, même s'ils avaient la confiance du roi, être mis en accusation par les chambres. Il y avait donc bien deux conceptions du pouvoir qui s'opposaient. D'autre part, Jacques Ier avait des attitudes en matière de politique internationale qui heurtaient une partie du royaume. En particulier, il voulait marier son fils à une infante espagnole, donc à une catholique, et il n'avait guère soutenu son gendre lorsqu'il avait été élu roi de Bohême. D'autre part, il ne se mêle pas du grand conflit européen qui est alors en cours, la guerre de 30 ans, et pour soutenir les protestants français, il ne fait qu'envoyer une flotte anglaise pour essayer de débloquer le port La Rochelle sans succès. Donc il y a bien un problème qui se pose. Or, le roi décède en 1625. D'autre part, il y a son successeur, son fils, Charles Ier. Or, le conflit va s'aggraver. En effet, Charles Ier, qui au début rencontre une réelle popularité, a fini par déplaire à une large partie de ses sujets, à propos d'abord de son mariage avec la catholique Henriette de France, avec la faveur qu'il a témoignée à un courtisan incapable et méprisant, le duc de Buckingham. Et puis, il a également l'habitude de prendre des décisions en matière fiscale, tout particulièrement, sans consulter le Parlement. Or, celui-ci, dans un texte édité en 1628, la revendication du droit, eh bien, estime qu'il doit y avoir un pouvoir partagé et qu'en particulier, en matière fiscale, tout impôt ne peut être décidé qu'avec l'accord du Parlement. Charles Ier décide de ne plus convoquer le Parlement, ce qu'il fit jusqu'en 1640. Or, entre-temps, la situation s'est dégradée. D'abord parce que l'archevêque de Canterbury, Monseigneur Laud, avait pourchassé les non-anglicans, les catholiques d'une part, mais également ce qu'on appelait les puritains, c'est-à-dire les protestants plutôt tentés par le calvinisme et qui reprochaient finalement une espèce de tyrannie de l'Église d'Angleterre dont ils critiquaient le système hiérarchique et également la liturgie. Beaucoup d'ailleurs sont partis vers les colonies d'Amérique. D'autre part, il y avait également d'autres problèmes qui se posaient, et en particulier les décisions fiscales du ministre du roi, Strafford, qui avaient été prises sans aucune consultation, puisque le Parlement n'était plus convoqué. Or, face à un soulèvement en Écosse, le roi est obligé de convoquer à nouveau le Parlement en 1640. Ce Parlement va siéger jusqu'en 1652 et ne va jamais quasiment cesser de se heurter au souverain et à ses ministres. Il va même y avoir un coup de force judiciaire du Parlement, puisque il va y avoir un procès contre l'archevêque Laud et contre le ministre Strafford, et tous les deux furent décapités. D'autre part, deux députés, Hampton et Pyme, font voter par le Parlement un principe comme quoi le roi doit accepter que les gouvernements de Sa Majesté ne soient responsables que devant lui et le Parlement. De plus, une grande partie des parlementaires veut réviser le livre des prières, qui était un élément clé de la liturgie anglicane adoptée à l'époque d'Élisabeth la Grande. Le conflit prend de plus en plus d'ampleur, au point que, soutenu par les catholiques d'Angleterre et d'Irlande, le roi décide le coup de force. Une guerre civile va commencer entre, d'une part, ce qu'on appelle les cavaliers, c'est-à-dire les soutiens du roi, et puis les têtes rondes, c'était une expression, péjorative, pour signifier qui étaient les soutiens de la Chambre des communes et du Parlement. Un homme va émerger de cette guerre civile, Olivier Cromwell. Il est extrêmement dur vis-à-vis du souverain, il n'est pas prêt au compromis, et finalement, il va écraser les troupes royales en 1645. Le roi Charles Ier est arrêté en janvier 1647. Cromwell veut aller au bout d'une logique politique. Il marche sur Londres, il en expulse d'ailleurs environ 150 parlementaires qui voudraient tout de même ne pas arriver à l'extrémité d'un procès du souverain. Et donc Cromwell va imposer un jugement. Charles est condamné à mort et il est décapité en 1649. La royauté est abolie, une république est proclamée et la Chambre des Lords est supprimée. Or, Cromwell va désormais être le maître du pouvoir. Il va régler ses comptes d'abord avec les Irlandais qui avaient été des soutiens de la couronne. Il y a eu une expédition militaire qui a provoqué, au milieu du XVIIe siècle, des milliers de morts parmi les Irlandais, qui furent exterminés ou envoyés même comme déportés aux Antilles anglaises. Les autres furent parqués dans l'ouest de l'île, la région la plus infertile. D'autre part, les Écossais, qui s'étaient finalement ralliés au fils de Charles Ier et qui avaient envahi le nord de l'Angleterre, ont été battus par Cromwell et ils proclament en 1651 une république d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Enfin, par un nouveau coup d'État, Olivier Cromwell renvoya le Parlement Croupion en 1653, Croupion parce qu'il en avait déjà exclu, quelques années auparavant, 150 membres. Et il reçoit le titre de Lord Protecteur de la République. On assiste donc véritablement là à une dictature de Cromwell. Il serait trop long d'en détailler toutes les mesures, mais il est indéniable que une partie des élites anglaises commence à regretter finalement une monarchie avec qui peut-être on pouvait négocier et que cette république défendue par Cromwell leur apparaît bien dictatoriale. D'autre part, il est vrai que Cromwell est un puritain de stricte obédience. Il combat l'influence non seulement du catholicisme, mais également de la High Church, cette haute église anglicane qui était intimement liée à la monarchie anglaise. Donc, il y avait véritablement un problème d'une dictature de Cromwell. Celui-ci meurt en 1658. Mais il est très conscient, au moment de mourir, que le régime qu'il a fondé n'est guère stable. Son fils Richard lui succède. Mais en 1659, il est progressivement amené à se retirer du pouvoir. Le chef de l'armée, le général Monk, entre donc en relation avec le fils du défunt Charles Ier, le prince Charles, qui était réfugié en Hollande. Charles, qui va devenir Charles II d'Angleterre, promet de gouverner en accord avec le Parlement, de promulguer une amnistie et donc restaurer. Mais il reste un dernier épisode, parce que si la situation politique est relativement stable sous Charles II, la situation se dégrade à partir de 1685 et la montée sur le trône de Jacques II. En effet, le fils de Charles II, lui, a des ambitions religieuses de restauration éventuelle du catholicisme. Il est très proche de Louis XIV et en cela déplaît beaucoup à une grande partie des élites anglaises. Aussi, en 1688, il y a une nouvelle révolution, beaucoup moins sanglante que la précédente, c'est la Glorieuse Révolution. La Glorieuse Révolution qui va véritablement faire entrer l'Angleterre dans un nouveau paysage politique, un paysage où l'équilibre des pouvoirs sera finalement progressivement atteint entre Parlement et royauté. Jacques II partira en exil en France et on appelle sous le trône son gendre et sa fille, Guillaume d'Orange, qui devient roi sous le titre de Guillaume III, et la reine Marie. Une autre ère politique s'ouvre pour l'Angleterre.